une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Les projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Donc on se met là souvent pour commencer parce que en fait le quartier du Gros Chêne est donc 1500 logements, 1400 logements sociaux pour Archipel Habitat, et le projet de rénovation urbaine il compte la réhabilitation de ces 1200 logements sur ces 1400. Et ces 1200 logements, c'est 900 logements qui sont sur les 10 tours du quartier. 10 tours, c'est une tour 90 logements, donc il y a déjà 900 logements. Et puis on a les 250 ici, 244 dans la banane, qui vont être réhabilités aussi. Puis on avait commencé le projet par les 470 qui sont ici sur la petite barre Marbaudet. Et donc là, on était sur des réas assez classiques, ce qu'on fait sur de l'enveloppe et puis une intervention assez sommaire à l'intérieur des logements.
Un peu d'accessibilité quand même.
Un petit peu de travail, ouais, quand même sur les halls, sur d'intervention sur les entrées, ouais, mais c'était plus de la requalification esthétique qu'accessible, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas PMR là-dessus, c'était pas l'enjeu. Mais en tout cas, de se connecter avec le projet urbain, plutôt sur la place Gros Chêne et future station métro.
Parce que le cœur du sujet, c'est ça, ou en tout cas, c'est peut-être pas une fin, mais un moyen de transformer, c'est l'arrivée d'une station de métro, juste là, à proximité, dans le quartier, quoi.
Ouais, je pense que l'arrivée du métro, elle était programmée là dans le cadre des travaux de seconde ligne. C'est aussi pour ça que l'intervention sur ce quartier avait été décalée par rapport à l'Anru 1, où on était plutôt sur Villejean, notamment où il y avait la première ligne. Et puis ici, et le Blône. Et puis ici, on a profité de l'arrivée de la seconde ligne pour intervenir en concomitance sur l'ensemble du quartier qu'on n'avait pas traité sur le premier Anru. Donc là, une intervention assez classique. Et puis sur les 10 tours, des interventions beaucoup plus lourdes avec une ambition différente. Parce qu'au départ, le projet de rénovation urbaine avec l'idée de principe fort de rénovation, donc créer de la mixité, permettre l'arrivée aussi de nouveaux types de populations, donc tous ces objectifs-là qui permettent de rehausser le niveau dans les quartiers. Donc avec des premières intentions au départ de démolition éventuellement de certains immeubles pour recomposer à la fois la forme urbaine et puis permettre aussi des nouvelles d'attirer des nouveaux types de plus attractifs. Ouais.
Et finalement non, donc pas de déconstruction, en tout cas pas là, ou des constructions très très ponctuelles. Et sur les 10 tours, de 90 logements chacune, ouais. Ça fait combien d'étages ?
15.
Ça fait 15 étages, donc on est sur des beaux ensembles hein, déjà. Une première qui a déjà fait l'objet d'une intervention complète, on peut dire ambitieuse.
Alors l'ambition, c'est ça. Sur ces 10 tours, donc c'est de créer ces conditions d'attractivité sur l'échelle des 10 tours, donc des 900 logements. Donc c'est là qu'on s'est dit, il faut faire ce qu'on pourrait faire en construisant des nouveaux ensembles, mais à l'intérieur de l'existant. Parce que on a un potentiel de 900 logements et puis démolir des tours, c'est-à-dire démolir des logements, c'est-à-dire les reconstituer. Et on sait qu'on a, enfin, on aura du mal à reconstituer 90 logements si on démolit une tour de 90.
Donc là, la question, c'est vraiment comment on redonne une deuxième vie à l'ensemble de ces logements, comment on refait un programme neuf sans faire du neuf, quoi.
C'est voilà, c'est ça. C'est comment on fait du neuf sans faire du neuf. Donc dans du neuf, on ferait peut-être plusieurs types de programmes. Donc du locatif, on pourrait faire de l'accession aidée, on pourrait faire pourquoi pas de l'accession libre. Enfin, on pourrait faire des locaux d'activité, des locaux associatifs. Et comment on réussit à créer tous ces produits-là? On pourrait aussi mixer les typologies, bien sûr. Et comment on arrive à créer ces programmes neufs dans un ensemble existant où on a à la base 15 étages qui sont, on peut se rappeler.
On va se rapprocher 15
étages
un peu,
hein. Identiques. Et on a 15 fois, on a 10 fois 15 étages de 6 logements. Et
d'accord.
Strictement les mêmes étages sur strictement les 10 mêmes tours. Donc on a une typologie très homogène, composé de T2, T3, T4, donc que des petits logements avec des petites surfaces et uniquement du locatif social. Donc c'est pour nous, on avait l'intention sur le programme locatif de créer des logements plus grands pour accueillir des familles plus grandes, parce qu'on a beaucoup de grandes familles qu'on n'arrive pas à loger sur le quartier. Ça, c'était le premier objectif sur le programme locatif. L'intention de créer des nouveaux programmes, donc faire de l'accession aidée, de faire du locatif intermédiaire, ce qu'on pourrait faire dans ces projets de rénovation urbaine aussi, et puis de recréer des locaux d'activité, des locaux associatifs, voilà. Et voire même là, dans cette tour-là, de faire des résidences habitat jeunes.
Bonjour.
On remonte, on rentre.
Donc, l'urbaniste consultant et qui vient faire une conférence ce soir à Métropole.
Oui, j'avais vu à l'invitation. Ouais.
Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de présenter. Donc, on vous met à contribution.
Pas de soucis. C'est
ouf. Très bien.
Je coordonne
Archipel.
Pour
Archipel, d'accord.
Mes collègues.
J'ai commencé par juste, on était sur les objectifs un peu plutôt des programmes de réhabilitation des Vitours, donc on était sur le programme de mixité un peu. Voilà. On est enregistré.
Voilà, on est enregistré.
Donc là, on s'est mis là. Mais
c'est la radio. Alors, on vient de rentrer dans le bâtiment. C'est peut-être l'occasion de se présenter, puisqu'on n'a pas commencé par les présentations.
D'accord. Donc, Michael Goupil, moi je suis monteur d'opération sur le programme de rénovation urbaine du quartier du Groschène pour Archipel Habitat.
Cécile Monneret, je suis chef de projet renouvellement urbain pour Archipel Habitat et je suis en charge de la coordination de toutes les actions d'Archipel Habitat sur le quartier du Groschène.
Alors, on vient d'évoquer ces 10 tours de 15 étages et on rentre dans ce qui est peut-être un prototype, c'est-à-dire en tout cas le premier. Sur lequel vous avez travaillé. On peut parler de l'ampleur du chantier, de l'ampleur de la transformation, une fois qu'on a dit qu'on déconstruit pas, une fois qu'on a dit qu'on fait du neuf avec du vieux. Quelle forme ça prend? Qu'est-ce qui a été réalisé ici?
Qu'est-ce qui a été réalisé? Alors ici, on a, sur cette première tour-là, on a une tour composée de deux types de programmes. On a une majorité de logements locatifs sociaux qu'on a conservés. Donc on a, sur les 90 logements locatifs, on en a conservé 59. On a recomposé, donc on n'est pas sur les mêmes typologies qu'au départ. Donc on a notamment créé, on verra, des grands logements, des types 6 en duplex, des types 4 duplex aussi, des typologies qu'il n'y avait pas. Et puis on a un autre type de programme sur cette tour, c'est une résidence habitat jeune de 40 studios, 40 type 1, type 1 bis même, puisqu'ils sont plutôt de 30 mètres carrés, et qui sont gérés par une association, qui est l'association Saint-Joseph de Préville.
Plus un socle qui va accueillir...
Et le socle qui était au départ un local collectif résidentiel, donc à destination des habitants de la tour, est conservé en statut de LCR, mais cette fois-ci, la destination a été quelque peu précisée, puisqu'on est sur un équipement LCR à destination vocation culturelle, et dans un premier temps, c'est le cabinet photo du quartier du Groschène qui va occuper les lieux, mais toujours sur un statut LCR à destination des habitants.
Alors, changement de typologie important, hein, manifestement, vous repensez à la... Les étages se différencient, mais les tailles de logements se différencient. C'est un peu plus que pousser une cloison et changer les robinets. C'est quoi l'ampleur des travaux techniquement et qu'est-ce qui a rendu ça possible en termes constructifs, si on rentre un petit peu dans le concret, qu'est-ce qui a été cassé, qu'est-ce qui a été refait? Faut le préciser, on n'est pas sur une opération en milieu occupé, c'est-à-dire que déjà, il a fallu reloger tout le monde.
Alors au départ, on n'était pas parti forcément sur l'idée de reloger l'ensemble des habitants pendant la durée du chantier, mais c'est bien l'ampleur du programme de travaux qui s'est précisé au fur et à mesure, compte tenu de nos objectifs, nos enjeux, qui nous ont amené à libérer l'ensemble de la tour pour faire les travaux. Et parce que nos enjeux de restructuration forte ont fait qu'on s'est trouvé face à des problématiques de présence d'amiante et d'impossibilité de réaliser ces travaux en site occupé, des problèmes évidemment de bruit, de choses qui étaient incompatibles avec les sites occupés. Donc on a vidé la tour, et ce qui nous a permis d'aller de facto aussi beaucoup plus loin dans le programme de travaux. Et c'est pour ça que là on a poussé au maximum, j'allais dire, vous avez parlé de prototype tout à l'heure, mais on est bien dans cette idée là et on a poussé au maximum la possibilité d'intervention sur cette tour là. C'est pour ça que là on voit, on a conservé quasiment que la structure finalement de la tour, et on a purgé pratiquement tout ce qui servait plus à rien, c'est-à-dire tout ce qui était conduit de ventilation naturelle, tout ce qui était conduit chinte, qui était obsolète puisque ça a été transformé par des conduits de ventilation mécanique qui prennent beaucoup moins de place. On a reconfiguré le hall aussi avec des escaliers qui étaient un peu pas forcément, enfin qui barraient un peu la vue dans le hall traversant. Donc ça, c'est des choses qu'on a poussées aussi en termes de structuration. Et on a reconfiguré tout le niveau de sous-sol qui était occupé par des caves qui ne servaient plus. Et on a reconfiguré tout le R+S, la toiture terrasse également. On avait des surfaces collectives, des surfaces de cellier, de grenier en fait, et qu'on a redonné en surface plus noble avec de la surface habitable et de la surface pour espace commun.
D'accord, donc voilà. De vrais travaux d'ampleur. Je sais pas, on vous suit.
Ah, ouais, peut-être on va vous montrer les différents endroits. Et ouais. Par exemple, la maison des habitants au dernier étage, on va pouvoir peut-être parler des espaces partagés.
Je sais pas si c'est couvert là-haut, mais on montrera volontiers.
Ouais. Il y a une salle.
C'est par les logements.
Par contre, on peut peut-être s'arrêter sur un.
Oui, bien sûr, oui. Non,
je vais faire les logements.
L'engouement d'abord. Ouais. Avec un il vous reste des logements.
Ouais, les deux témoins.
Oui, les deux témoins, on les a encore.
Ah, super.
Et là, juste peut-être s'arrêter vite fait là.
Ici on a retourné l'escalier qui était dans l'autre sens initialement et qui barrait un peu l'accès aux ascenseurs, vraiment pour dégager, vraiment mettre en valeur. Ouais, c'est ça, et puis vraiment valoriser un côté hall traversant, vraiment lui donner de l'ampleur en termes de volume, et puis vraiment lui donner un côté beaucoup plus chaleureux que ce qui existait jusqu'à présent.
Et ici, on a transformé, reconfiguré des locaux techniques qui étaient des locaux de vélo, en fait. Les locaux vélo, on les a repositionnés soit au sous-sol, soit un petit peu plus sur les façades est et ouest. Et dans la partie centrale, donc nord, ici, ça marche. On a créé un nouveau local collectif résidentiel. Mais cette fois-ci, vraiment, à la différence de celui ici, où j'ai parlé cabinet photo, qui est plus quand même... vocation quartier. Ouais. Là, on est vraiment local collectif résidentiel pour les habitants de la tour. D'ailleurs, il est accessible que depuis le hall. C'est ce qui le différencie aussi par rapport à l'autre qui est accessible depuis l'extérieur. Et on est sur un local qu'on imagine plutôt du type buanderie collective. D'ailleurs, on a prévu des attentes de machines à laver, de sèche-linge. On est encore en train de, travailler le projet avec les habitants et avec les partenaires. Mais l'intention est là et on a un local de 30 de mètres carrés. Qui est connecté avec la loge du gardien qui est juste derrière, et ce qui permet aussi au gestionnaire de site de se poser aussi comme animateur de ce genre d'espace.
Le gestionnaire de site, c'est nos gardiens d'immeubles. Hein, on a renforcé toute notre équipe de proximité spécifiquement sur ce quartier, de manière à aussi développer la médiation sociale avec les locataires, travailler tout un projet de résidence. Et vous allez voir, on a développé cet espace-là en espace partagé, mais un aussi dans les 11e étage, et donc la maison des habitants. L'idée, c'est comment bien vivre ensemble, développer des activités, l'interconnaissance entre les voisins, etc., pour qu'il y ait une vraie vie dans la résidence. Sachant que ça, c'est à reproduire aussi sur les autres tours, où on a à chaque fois deux produits. Donc là, Michel a parlé donc des studios pour jeunes actifs et du locatif social. Sur la seconde tour qui est en travaux, c'est de l'accession sociale et du locatif social. Donc l'idée, c'est aussi que tout le monde apprenne et ait plaisir à vivre ensemble. Et sur les tours suivantes, à chaque fois, c'est deux produits, du locatif social et de l'accession sociale pour une des tours. Et sur la deuxième
tour de la paire, c'est du locatif social et du locatif intermédiaire. L'idée, c'est bien de travailler tout un projet de mixité. C'est vraiment ça qui a guidé aussi la définition de notre intervention sur le quartier.
Ok, bon, on va aller visiter ça.
On va aller au sixième.
Distance.
C'est un peu, mais...
450 kilos, comptez-vous.
Ouais, 8
officiellement ou...
Il a supporté 2 ans de travaux, donc je pense qu'ils ont transporté plus que ça. Là, on va au sixième étage, donc on va avoir un logement témoin, c'est un type 2. Et puis, vous verrez les paliers aussi, le travail qui a été fait dans les paliers. Où on a recomposé toute la façade nord qui était composée de panneaux pleins entièrement en béton.
Ouais.
On les a percés en fait pour recréer à la fois des vues sur de l'intérieur et puis ramener de la lumière sur les paliers quand on est aussi à l'intérieur. Donc ce qui, en fait, je sais pas si vous avez vu les tours avant, mais ça change énormément parce que là il faut imaginer.
C'est bien de faire tours, le avant après. Ouais. Ça c'est très bien.
Il faut imaginer la tour ici avant, donc ça c'est fermé, c'est complètement. Donc là on est dans un espace très fermé, très noir. Et on n'a pas cette ouverture là sur le quartier et puis la lumière naturelle.
Au bout, la façade nord, c'était des séchoirs,
oui,
qu'il y avait sur chacun des paliers. Et donc l'idée, c'était cette ouverture là et de retrouver des rangements des celliers sur le palier pour tous les grands logements du palier. On sait que ça marche beaucoup mieux que quand on a des caves et des greniers comme on avait initialement, où en fait les gens ne s'en servaient pas en fait.
Oui, ça part vite. Ça parle de autre chose.
La reconfiguration des sous-sols et des R+16, finalement, elle a été possible aussi parce qu'on a pu créer ces espaces de rangement immédiatement accessibles depuis l'étage. Mmh. Donc, on a 4 celliers ici pour 6 logements, mais on a réparti en gros les celliers pour les grands logements. Donc, tout le monde n'a pas son cellier individuel, mais les types 2 en ont plutôt à l'intérieur. Et ça nous a permis de condamner quasiment les caves et sous-sols.
Voilà, c'était comme ça avant. Et maintenant, c'est comme ça.
Ah oui, on prend de la lumière et puis...
La lumière naturelle sur les paliers. Donc, ça change tout pour le confort au quotidien.
Là, il y a un gros travail sur la technique aussi. On a parlé reconfiguration, mais mixité. Mais il y a un gros travail technique sur la mise en sécurité. Bon, déjà, les objectifs de performance thermique. On est sur des labellisations BBC, rénovation responsable chez Promotelec. Donc, qu'on a fait grâce à l'isolation intérieure au raccordement chauffage urbain et à l'eau chaude collective, réseau de chaleur également. Il y a un objectif performance acoustique, toujours dans les performances, où on a mis, vous voyez, des sas qui permettent de réduire aussi les bruits de chaque demi-palier vis-à-vis des cages d'escalier centrales. On a un travail acoustique qui se voit dans les logements par les faux plafonds acoustiques qui sont mis dans tous les logements pièces sèches. Et puis, on a un troisième enjeu, c'était la sécurité incendie, qu'on a retravaillé aussi, notamment en créant des désenfumages mécaniques sur chaque palier. Et donc, c'est une mise à niveau complète de la tour. Donc, c'est là aussi, on est quasiment sur du niveau équivalent neuf, même si on n'est pas aux normes d'un programme neuf, mais on est très proche en acoustique, très proche en thermique et très proche aussi en sécurité incendie. Là, on va avoir un type 4. Non, un type 3. Au départ, c'était un type 4, et on l'a transformé celui-ci en
type 3 bis.
Ce qu'on appelle T3 bis parce qu'on a des types 3 anciens qui sont restés des types 3. Donc c'était des types 3 de 55 mètres carrés qui sont restés des types 3 de 55. Et ça, c'était un type 4 de 68 qui est devenu un type 3 de 68.
D'accord, donc c'est une reconfiguration, mais c'est pas une perte d'espace.
C'est ça. On a ouvert le séjour sur une chambre qui était commandé par la pièce de vie, c'est ce qu'on va voir là-bas. Et donc ça correspond plus à des surfaces, enfin de logements un peu plus, enfin avec des conceptions plus contemporaines et aux attentes des locataires. On a gardé aussi effectivement les configurations initiales parce que ça répond aussi à des besoins de nos locataires. Donc l'idée c'était justement de diversifier et d'avoir le panel le plus large possible de typologies et de configurations de logements.
Donc là, on a un travail sur le cloisonnement, l'ensemble des murs, des énergies, l'isolation par l'extérieur, etc. Aussi un travail sur les ouvertures, c'est ça ?
Oui, un gros travail sur les ouvertures. C'est
redonner l'enjeu qui a été tout de suite perçu par les architectes et par les habitants quand on a commencé à travailler le programme aussi avec les habitants en concertation sur toute la phase des études, c'était de redonner des vues, remettre les qualités de ce qualité initiale de ce patrimoine qui avait été quelque peu gommé au fil des années. Donc il y avait des menuiseries qui étaient bouchées sur les parties droite et gauche, des allèges qui étaient très hautes, pleines, et donc on a rabaissé les allèges et on a ouvert complètement tout ce qui était menuiserie par des nouvelles fenêtres en plus performantes sur le plan thermique.
Oui, avec
donc là, on a vraiment mis en valeur toutes les vues qu'on peut avoir et ce qui permet à tout le monde d'avoir une vue sur la ville, quoi. Donc de remettre les qualités d'une tour.
Et un accès pour chacun à l'extérieur avec un balcon.
Les accès aussi ont été revus, notamment avant dans la cuisine, on n'avait pas accès à la loggia. Donc là, on a recomposé l'ouverture de la cuisine pour permettre un accès direct de la loggia. Et puis, réaménager des éléments de cuisine aussi le long du mur alors qu'ils étaient. Là, on voit, on a démoli en fait la cloison qui était ici où on avait une chambre, ce qui faisait les trois chambres du T4. Ce qui permet d'agrandir le séjour. Donc on avait un séjour dans un T4 qui faisait 15 mètres carrés. Là, on se retrouve avec un séjour de 25 mètres carrés.
Ouais, avec une double orientation et pour le coup, une pièce super lumineuse.
Là, on est exposé sud-est. Avant, on était séjour est, en fait.
Ouais.
Donc on a décidé de recomposer ces types 4-là pour avoir sud-est. Et les autres types 4 sont restés type 4. Et ils ont une orientation ouest.
Bah ouais, ça donne envie. Et vous gardez le témoin
Encore un peu, parce que ouais, on est en chantier sur la 7, là, à côté. Et on n'a pas encore fait les nouveaux témoins, donc ils nous servent aussi pour les guides. Et là, ce que je disais sur la cuisine, vous voyez, là, ce qu'il y a.
Ouais.
La cuisine, l'évier était là. Ouais. La menuiserie était là, donc elle est super haute, on ne voyait rien. Et puis là, on crée l'accès et on vient recomposer.
Ouais, et puis on va mettre énormément de lumière.
Et ce qui a été possible aussi par les émissions de conduits qui venaient jusque-là. Quoi.
Tiens, on va faire une. On va faire une photo. Vous pouvez la tenir.
Ça, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas la bonne lumière. Mais...
Ouais, bah après, on a. Ces photos-là.
Ouais, vous devez la voir.
Ouais.
Et donc là, la cuisine était fermée complètement, il n'y avait pas de porte-fenêtre.
Ah,
c'était ça. Ah oui, d'accord.
C'est vrai que c'est assez apparent, la photo, parce qu'on voit, on voyait rien, c'est très haut, en plus c'était là. Donc des gens.
Ouais.
Le pire dans ces logements-là, c'est même les enfants, ils ne voyaient jamais dehors en fait.
Ouais.
Parce que les allèges étaient en haute, souvent on condamnait les accès aux loggia parce que les questions de.
Oui, de sécurité,
en réalité, les parents ne laissent pas toujours les loggia ouvertes, donc les enfants ne voyaient jamais dehors. Ou comme ciel. Là, on redonne de la vue à tout le monde.
Ah oui, il y a un travail, en fait, les jardinières qui font garde-corps.
Ça, c'est un enjeu aussi qui a émergé au cours des études. C'était pas forcément au départ, mais c'était la volonté d'avoir donné aussi de la végétalisation dans ces tours. Et donc, cette végétalisation, elle a été rendue possible grâce à la réalisation de porte-pots au-dessus des qui font aussi garde-corps sur les loggias. Et donc c'est des porte-pots qu'on a mis en œuvre dans le projet et on a fourni à la livraison sur chaque logement deux jardinières qui nous permettent aussi d'animer des projets de continuer à animer des projets de participation y compris après une fois que les habitants sont dans la tour pour continuer à créer du lien social et porter des animations, utiliser les locaux communs. Donc notamment les plantations de ces jardinières, ça fait partie d'un atelier qui a été mis en place.
Et donc on voit en face là le chantier de la deuxième tour qui est en cours. Donc on l'a dit, on est sur des typologies des programmes un peu différents, hein. Donc là on a de manière de l'accession sociale aussi en complément du logement locatif social. Qu'est-ce qu'on a appris ici, qu'on refait là-bas et qu'on refera pas là-bas aussi? Quels sont les. En quoi le prototype a servi?
Ce qu'on a appris ici, on l'a reproduit quasiment de manière identique sur la tour 7 parce qu'on fonctionne sur le quartier par paire de tours.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a pris une
pratiquement un projet par paire. On a une maîtrise d'œuvre par paire, on a les projets s'entendent par paire, comme disait Cécile, il y a deux types de programmes par tour. Et ça fonctionne par paire, parce qu'il y en a un de l'accession sociale, l'autre c'est de l'allocatif intermédiaire. Donc là, cette tour-là va être la même sur le sur les objectifs, sur le programme, sur la réalisation. Ce qu'on va avoir gagné, c'est plus l'expérience qu'on a eue des surprises qu'on a quand on fait de la réhabilitation sur les structures, sur la présence d'amiante là où on n'avait pas détecté auparavant. Mais donc tout ça, on va en profiter, donc ça va certainement aller un peu plus vite ou se faire de manière un peu plus économique sur cette tour-là. Mais il n'y a pas tellement de changements. Mais en revanche, tout ce qu'on a tiré de, comme enseignement sur la programmation, sur les endroits où on peut intervenir, où peut-être c'est peut-être pas nécessaire d'intervenir, là où on a mis beaucoup de moyens et peut-être qu'on en mettra un peu moins parce qu'il y a moins d'enjeux, ça, on s'en est servi pour travailler les programmes des 6 prochaines tours de l'Allée de Breno qui partent aujourd'hui en consultation d'entreprise, où on a arrêté définitivement les programmes, mais on a vraiment tiré parti de tout ce travail, y compris du chantier.
Alors par exemple, si on doit donner des conseils aussi à ceux qui se lancent, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou alors que vous allez refaire systématiquement sur les paires suivantes?
Sur la performance thermique, par exemple, on reste sur le même. Enfin, il y a des objectifs qu'on a maintenus, hein, les performances thermiques, comme acoustique, sécurité incendie, ça, voilà, ou même sur les objectifs de changement de statut, donc de passer en accession sociale ou en locatif intermédiaire. Ça, c'est des choses qu'on a tout le temps gardées en ligne de mire parce que c'est nos objectifs de mixité qu'on s'est donné dès le départ. Et puis après, sur les parties techniques, oui, il y a des choses où, effectivement, ces deux premières tours, elles avaient vraiment une valeur de test et d'expérimentation. Et donc, comme vient de le dire Mickaël, on a fait aussi certains choix. Voilà, là, on a accepté que d'aller au-delà de ce qu'on s'était donné initialement comme niveau d'intervention en travaux, y compris de l'intervention en site libéré. Sur les tours Breno, on est sur, on a maintenu notre objectif initial en termes de niveau d'intervention et on réalise les travaux en site partiellement occupé. Voilà, donc ça, tout le travail sur les deux premières tours, ça nous a permis aussi de faire ces arbitrages là qui étaient nécessaires par rapport à la définition précise du coup du programme de travaux. Mais on a gardé des intangibles sur un certain nombre de sujets, y compris sur l'image des tours, leur attractivité, sur la question des ouvertures par exemple. Même si aujourd'hui les propositions sont différentes, en tout cas il y a des choses sur lesquelles effectivement voilà, qu'on a mis en dur, on va dire, dans nos programmes.
Concrètement, on a identifié peut-être des points sur lesquels. Enfin, ce qu'on fait pas, par exemple, sur l'Allée de Breno, c'est on démolit un peu moins à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure des conduits chintes, on peut pas les démolir parce qu'en site occupé, ça serait trop compliqué. Donc on démolit un peu moins. Donc ça libère un peu moins d'espace à l'intérieur des logements. Et c'est en termes des arbitrages essentiellement économiques, hein, en plus du mode opératoire. Mais ça, le fait de pas démolir autant, c'est quand même moins coûteux, moins invasif en termes de travaux. Il y a moins de désamiantage aussi. On est plus en recouvrement sur l'amiante qu'en désamiantage, parce que pareil, qu'on peut pas trop faire en site occupé. Ensuite, on a des interventions moins importantes sur les sous-sols. Là, ici, le sous-sol, il a complètement été, on va dire, réinvesti avec des locaux techniques, locaux vélos, locaux moto, local moto. Sur les tours Breno, on n'intervient pas sur les sous-sols parce que finalement, on a réussi à positionner les locaux vélos dans les rez-de-chaussée. Donc, c'est aussi moins coûteux. Et puis, un point aussi important sur on crée pas de surface habitable sur R+16, sur la toiture terrasse. Parce qu'on avait des espaces de grenier, donc c'était aussi des investissements très importants pour refaire de la surface habitable en termes d'étanchéité, d'isolation. Donc on crée quand même de la surface accessible, mais plus en espace extérieur. Donc on est plus en terrasse collective. Donc en gros, et puis après il y a quelques points sur lesquels on va un peu moins investir sur les loggias. On voit que là on a été jusqu'à mettre du platelage bois sur les loggias. Donc ce qui donne un effet super dans les tours. Beaucoup de qualité, ramener du bois aussi, c'était intéressant. On le refait pas sur Breno,
On conserve les sols tels qu'ils sont, même s'ils sont repeints et remis à niveau. Et puis, il y a ce que disait Cécile sur les vues, les allèges, on les a pas redescendus. On redonne cet objectif de vue, mais c'était des points très coûteux techniquement et sur lesquels on a arbitré aussi.
Donc on apprend et puis on trouve les bons équilibres qui permet aussi de passer de un proto à 10 tours qui prennent une nouvelle vie.
On a ajusté en fait tout en gardant les mêmes ambitions et en rendant ça possible, voilà, sans vider 180 logements pendant 4 ans quoi.
Oui, ce qui n'est pas une variable anecdotique. On continue la visite.
Ouais.
On va là-haut, ça s'est calmé.
Est-ce que vous voulez voir le deuxième
chantier noir? Oh bah ça va, on en a vu un là, non?
Comme vous voulez. C'est une autre typologie, c'est un T2.
Bon, on va monter.
Okay.
Okay. C'est que je vois l'heure qui passe aussi.
Oui,
c'est
ça, oui. Sur ça, on va aller plus tout en haut. Donc.
C'est 18h?
C'est 18h.
Il ouais. Faudrait que je m'installe un peu avant.
Voilà, il faut que je parle au régisseur aussi pour l'histoire de la carte.
Oui, on l'a pas dit. Vous l'avez pas dit, mais.
Non, mais
l'intervention sur les parties communes, effectivement, sur les autres tours, hein, sur les parties
sur les communes, le commun,
sur les rez-de-chaussée.
Oh, mais c'était clair au propos initial, c'était clair.
De toute façon, si vous voulez des documents, je ne sais pas si vous en avez besoin, on a un certain nombre de choses.
Évidemment. Oui, je vois ça.
Donc, ça, non. C'est vraiment. C'est ce qui est marrant, c'est sympa, c'est qu'il y a le avant-après. Après, on a des plaquettes comme ça, alors on n'en a plus.
Non, mais on aime bien le numérique. Oui,
voilà. Ça, c'est ce qui a été la plaquette qui a été faite au moment de l'inauguration de la première tour.
Ouais, très bien.
Donc, vous avez les financements, des choses sur les espaces partagés, etc., sur la concertation. Pour l'instant, on n'en a pas parlé encore, c'est une chose à dire. On a poussé aussi l'ambition en termes de participation des habitants. On a parlé de la partie, on va dire, après livraison. Mais c'est vrai que pendant la phase de conception, ça a été le cas aussi.
Pendant la phase de conception, là, et puis pendant les concours sur les autres, vous avez...
Ah oui.
Là, on a la maison des habitants.
Alors, là, on est sur le toit, hein. On est au 16e étage.
R+16, ouais, c'est ça. Et on a moitié de un étage qui était entièrement composé de greniers. On l'a recomposé avec moitié espace collectif pour les habitants et moitié espace individuel avec surface habitable. On a des types 6 de l'autre côté. Et là, on a une maison des habitants qui fait 42 mètres carrés. Et qui est entièrement vitré et qui est mis à disposition des habitants pour créer des projets, soit se retrouver. Enfin, on est encore en train de définir l'usage avec eux d'ailleurs. On attendait vraiment que les habitants arrivent pour définir les règles d'usage de cet espace.
Avec une vue magnifique.
Ici, donc, ce sont des petits 6.
D'accord. Okay. Là, ils sont occupés par des grandes familles qui étaient sur le quartier d'ailleurs avant et qui occupaient des type 4, je crois, qui étaient beaucoup trop petits pour eux, et du coup, ils ont pu rester sur le quartier.
L'idée, c'est bien
c'est ça,
de...
Pardon.
Ah ouais.
Magnifique. Il y a de la flotte, hein.
Entrée, là,
ouais. Vous avez vu que vous avez
ouais,
Impressionnant. Rien qu'à prendre des photos, j'ai le vertige, moi. De quoi il faut qu'on parle pour faire le, pour atterrir? On parle de la concertation avant. Et il faut qu'on parle de l'équipe.
De l'équipe
On n'a pas cité la maîtrise d'œuvre, etc. Okay.
Ah,
la
maîtrise d'œuvre ou de l'équipe interne architecte?
De l'équipe au sens général du terme.
Parce qu'on n'est pas que tous les deux à travailler.
Oui, oui, oui.
On est plein.
Sans citer tout le monde, mais il y a Archipel, les structures.
C'est dans l'idée de... En fait, on s'est organisé en conséquence avec une équipe, on va dire, un peu pluridisciplinaire.
Peut-être qu'on va se mettre... Ouais, si on peut rentrer. Ouais. Voilà.
Alors,
l'archipel est là. Alors peut-être qu'on peut parler, innover, tester des choses, expérimenter. On prend les mots qu'on veut, éventuellement avec des hashtags ou pas. Hein, mais en tout cas, on peut pas faire ça comme d'habitude. On a des architectes qui sont intervenus, une équipe, des entreprises de travaux, etc. Mais y compris en interne, comment vous êtes organisé pour mener une opération de ce type, pour démarrer, tester et ensuite déployer une opération de ce type?
On a effectivement fait le choix de mettre en œuvre une équipe projet, vraiment qui est dédiée aux gros chênes, avec différents métiers de l'office. Donc on va avoir les métiers opérationnels avec le montage d'opération, la conduite de chantier, quelqu'un qui est dédié au relogement, une personne qui est également en charge de la mise en œuvre de la mixité et la diversification, donc en termes de recherche de public, y compris la commercialisation de nos logements en accession, et une personne qui est en charge de la concertation et des démarches d'insertion qu'on peut mener sur le quartier. Donc tout ça piloté par moi-même, le chef de projet, une collaboratrice, et piloté en super chef de projet par notre direction générale, qui est très impliquée aussi sur le quartier.
Et donc les partenaires?
Et les partenaires, alors on a travaillé évidemment sur ce projet avec une équipe de maîtrise d'œuvre, donc Claire Guies et l'atelier BMC2, et le bureau d'études
I2C.
Ça, c'est vraiment pour la maîtrise d'œuvre. Et puis, évidemment, le partenariat se fait de façon étroite avec la collectivité. Également, tout un travail, on va dire, sur les plans urbains, avec territoire en charge de l'aménageur de la ZAC, donc en charge de l'opération d'aménagement, qui eux-mêmes ont un travail avec l'atelier RUL sur les sujets urbains à l'échelle de l'opération d'aménagement.
Et puis donc impliquer très tôt les occupants. Alors tout simplement non, c'est pas simple puisqu'on l'a vu, il y a eu aussi cette question de la relocalisation des habitants, etc. Mais avec un travail de concertation mené très tôt, mené en tout cas en amont du chantier, vous pouvez nous raconter un petit peu ça?
Oui, tout à fait. L'ambition d'Archipel, c'était évidemment de faire ce projet-là, à l'échelle du quartier, pour les locataires du Gros Chêne. Donc, on a souhaité travailler en étroite collaboration avec les locataires. Donc, il y a eu un certain nombre d'ateliers de mener avec les architectes également sur la co-conception du projet. Également sur des sujets de gestion ou de l'usage futur justement de tous les espaces partagés qu'on développe dans les tours. Donc l'idée, c'était vraiment les locataires aient un pouvoir de décision autour de ces projets-là. On a poussé encore plus le curseur sur les tours Breno, les tours suivantes, où on associait les locataires dès le choix de la maîtrise d'œuvre, donc en les faisant participer à la consultation de maîtrise d'œuvre et en les faisant s'exprimer sur les propositions qui avaient été faites par les différentes équipes d'architectes.
De ces discussions, des évolutions sur le programme, sur la conception, etc., il y a eu des virages qui ont été pris à l'issue de ces moments de concertation. Ça a été aussi, ce qui n'est pas rien, moment d'immersion pour les maîtrises d'œuvre, pour rentrer dans le sujet.
Je pense que ça a permis déjà aux habitants petit à petit de prendre prendre connaissance de l'ampleur des travaux qu'on allait réaliser, de l'ampleur des modifications qui vont avoir lieu dans leur immeuble, mais aussi dans leur quartier. Et c'est vrai que ça permet à la fois, mais y compris aux maîtrises d'œuvre, de prendre connaissance aussi du contexte dans lequel ils interviennent. Ça les pose aussi dans un contexte beaucoup plus humain, j'allais dire, d'être au contact tout de suite des habitants de leur tour, mais aussi des tours d'à côté, enfin de tout ce qui se passe dans le quartier. Et finalement, ça permet à tout le monde de progresser ensemble pendant les études, c'est à peu près 2 ans, donc pendant 2 ans, et finalement, on arrive au final à ajuster toutes les propositions, que ce soit les archis, d'ajuster leurs différentes propositions sur ce qu'ils avaient imaginé au départ, qui finalement sont peut-être pas trop pertinents. Et puis aux habitants de préciser leurs besoins et de se mettre aussi dans le contexte du logement, de la réalisation d'un projet, donc d'être aussi plus en cohérence avec ce qu'on est capable de faire, quoi. Donc il y a plutôt une notion de culture commune, à la fois habitants, maîtrise d'œuvre, et y compris, je trouve aussi que ça a un intérêt pour tout ce qui est équipe de maîtrise d'ouvrage, parce que même si nous, on a plus l'habitude de gérer les projets, les équipes de proximité aussi, un peu moins peut-être, et ça permet aussi d'avoir cette notion de culture commune, donc ça a plusieurs vertus en tout cas.
Et au-delà de faciliter l'appropriation d'un projet, c'est faire avancer le projet, puis y avancer chacun individuellement, collectivement, en comprenant ce qui se passe de l'autre côté. Bah, écoutez, merci beaucoup. On manquera pas de suivre la suite de tout ça. Deux tours prochainement. Il y a encore 4 paires à faire, mais aussi tout un quartier qui est en cours de réflexion, de transformation. On le voit bien. C'est des projets urbains qui sont longs et qui prennent du temps, parce qu'il faut du temps aussi pour faire la ville, et là on voit qu'on a un parti pris initial qui est de ne pas démolir, et peut-être que ça impose aussi de penser les choses un peu autrement, c'est peut-être pas plus mal. Merci beaucoup.